Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC, les grandes gueules.
C'est Jordan Bardella, président du Rassemblement National, qui est avec nous. Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Vous allez écouter le président de la République tout à l'heure à 13h.
Bah avec grand plaisir.
Qu'en attendez-vous ? Pas grand-chose. Avec Emmanuel Macron, on s'attend à rien, mais on est quand même déçu en fait. À chaque fois, je pense qu'il est en train de danser sur un volcan et qu'il ne saisit pas ce qui est en train de se passer dans le pays. J'ai entendu un certain nombre de ses conseillers, dont les propos sont rapportés auprès du journal Le Monde, expliquer que le président de la République n'avait aucun regret, aucun remords, ni aucun scrupule à avoir été contraint d'utiliser le 49-3. Et on a le sentiment là d'une petite élite qui s'enferme, en fait, et qui ne voit pas ce qui est en train de se passer dans le pays. Il y a des crises très importantes, des crises structurelles, de pouvoir d'achat, de crise de l'énergie, d'inflation, évidemment de cette réforme des retraites que les Français ne veulent pas. Et les gens, je pense, se demandent sincèrement si un jour ils vont avoir la tête de l'État, des gens qui les aiment et qui les respectent.
Et hier, devant ses parlementaires, sa majorité, il a prononcé cette phrase: la foule qui manifeste n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, Macron fait du Macron, en fait. Macron a un éléphant dans le salon, mais il ne le voit pas. Et je pense qu'il est devenu, que sa personne et non plus seulement sa politique, sont devenus un facteur de désordre aujourd'hui dans le pays. Et moi, j'ai le sentiment qu'il prend un plaisir un peu malsain à laisser une forme d'agitation de rue, une forme de violence démocratique s'organiser aujourd'hui dans le pays pour pouvoir intervenir ensuite et expliquer qu'il est l'homme de l'ordre et l'homme de la situation. C'est
avec
un peu
cynisme,
ce qu'il avait fait pendant les Gilets jaunes. Oui, je pense qu'il a, en tout cas dans sa considération du pouvoir, une forme de cynisme. Et surtout qu'il ne considère pas les gens et les Français. Je veux dire, on a une réforme que personne ne veut, que les Français ne veulent pas, que la représentation nationale ne veut pas.
D'accord.
Le gouvernement vient devant les Français en disant vous allez l'avoir quand même. Je sais pas
d'accord,
dans quelle autre démocratie on voit ça, mais même chez les gens, excusez-moi, mais même chez les gens, chez les LR par exemple, qui étaient favorables à cette réforme des retraites, même les gens qui sont favorables à la réforme des retraites disent mais ça n'est pas le moment. Quand vous avez deux Français sur trois qui dans toutes les enquêtes dit on ne fait pas les courses à notre faim parce que le caddie de course est trop cher, quand on a un carburant à 2 euros et des gens qui sont dans les campagnes contraints de limiter leurs déplacements,
d'accord,
quand on a des artisans boulangers qui mettent la clé sous la porte parce que l'énergie a été multipliée par 3, 4, 5, 6 ou 7, on peut pas venir dire aux gens vous allez travailler 2 années
d'accord,
de plus.
D'accord, mais est-ce qu'il fait pas une distinction entre ceux qui ont manifesté pacifiquement et les foules qu'on voit le soir en ce moment où ça se termine toujours mal par des dégradations, par des affrontements? Vous les condamnez ces agissements?
Évidemment qu'on les condamne. Et le propre même de la démocratie, c'est le conflit du débat, c'est le conflit des idées. Sinon, c'est la violence de la rue. Mais quand
qui est responsable de cette violence de la rue?
Je pense que d'abord, il y a une responsabilité des ultras, des milices antifa, dont nous demandons la dissolution depuis plusieurs années, que le gouvernement, je crois, ça avait été dit par un certain nombre de syndicalistes policiers, laisse venir dans les manifestations pour pourrir les mouvements sociaux. Mais je pense que dans le climat de violence qu'on connaît aujourd'hui, il y a évidemment une responsabilité du gouvernement qui pousse le mouvement social à la radicalisation. C'est un fait. Les syndicats sont dans leur rôle aujourd'hui. Mais il faut distinguer l'immense majorité des gens qui manifestent. Et en vérité, on peut pas se retrancher derrière les violences. Je vous rappelle qu'il y a 70 à 80 d'après les différents sondages qui ont été faits, pourcent des Français qui sont opposés à cette réforme des retraites. Il n'y a pas 70% des Français qui manifestent, mais on sait que l'immense majorité du pays est opposée à cette réforme des retraites. Et puis, il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus l'argent pour faire grève.
Mmh. Joël Dagossiri.
Oui, est-ce que vous êtes d'accord, en tout cas, est-ce que vous soutenez le système par répartition tel qu'il est aujourd'hui?
Oui, je pense que c'est un... D'abord, je pense que ceux qui expliquent que le modèle de par répartition est en faillite, en fait, je pense qu'ils mentent aux gens. Il y a des rapports qui ont été publiés, notamment les rapports du Conseil d'orientation des retraites, et qui montrent que globalement, le déficit des retraites est stable à l'horizon 2070, et qu'on n'a pas un problème de dépenses, mais qu'on a un léger problème de recettes de l'ordre de 10 milliards d'euros par an.
Ce qui est pas mal.
On peut pas venir nous... D'accord, quand on a mis, excusez-moi, hein, quand on a mis des centaines de milliards d'euros dans le soutien à l'économie française pendant la crise sanitaire, qu'on a fait un peu n'importe quoi avec l'argent public, on peut pas venir dire aujourd'hui que 10 milliards d'euros mettent en péril les comptes publics. On parle de 10 milliards sur 350 milliards d'euros dans le système de retraite. En vérité, on a un vrai sujet qui est celui de la natalité et celui de la démographie. La France n'a jamais été aussi peuplée de son histoire, près de 70 millions d'habitants, mais la France n'a jamais fait aussi peu d'enfants. On n'a jamais fait aussi peu d'enfants, notamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en vérité, on a un climat aujourd'hui qui est très anxiogène pour les familles françaises. Et les bébés d'aujourd'hui, c'est les cotisants de demain et d'après.
Donc pour régler le problème, il faut faire des bébés.
Je pense qu'il y a beaucoup de familles françaises aujourd'hui qui ne font pas d'enfants parce qu'ils sont très inquiets. Ils sont très inquiets d'abord de l'inquiétude du pouvoir d'achat, de la peur du déclassement, de l'inquiétude du réchauffement climatique,
de l'inquiétude.
Au contraire, moi je pense qu'il faut desserrer l'étau financier sur les familles.
Et
les mesures qui ont été prises par François Hollande en 2014, qui ont ciblé spécifiquement la famille avec la remise en cause de l'abaissement du quotient familial et l'université des allocations familiales, ont fait beaucoup de mal. Mais juste si on parle là de 10 milliards d'euros, on ne peut pas dire que le système des retraites est en faillite. Et on voit bien d'ailleurs dans toutes les compromissions qui ont été faites par le gouvernement pour négocier sa réforme, qu'en fait il n'y a pas le gain escompté initialement. Et que le gouvernement nous dit dans 5 ans,
on
n'allait
pas pouvoir redresser tout un système avec faire des bébés, dans le sens où on est dans une société où justement la démographie essentielle est dans le sens de moins d'enfants, parce qu'on est dans une société développée. Donc on ne va pas pouvoir inverser la tendance et devenir le Niger du jour au lendemain et financer le système, un système par répartition. Donc moi, ce que je ne comprends pas dans votre logique, c'est comment on fait pour garder le même système et faire une retraite à 60 ans, alors qu'en fait, tous nos voisins allemands, etc., qui ont à peu près la même démographie que la nôtre, eux vont vers un système, à un départ à la retraite à 64, 65 ans, 67 ans. Non, les autres, les voisins sont
prenons
plus
l'exemple,
à 60
je veux
et à 62.
Qu'on parle de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est 67 ans, avec un peu moins de durée de cotisation d'année de cotisation qu'en France, qui est basée sur à la fois le temps de cotisation, à la fois le départ à l'âge légal. Et je veux dire, en Allemagne, il y a deux fois plus de retraités pauvres. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Regardez en Suède, par exemple. En Suède, sur votre antenne sur BFM TV, il y a 2-3 mois, le directeur général de la sécurité sociale en Suède a dit « Nous avons mis en place en Suède la réforme à 65 ans et je dis aujourd'hui au président de la France, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, pourquoi ? Parce que l'espérance de vie en bonne santé, et notamment à l'échelle de l'Europe, elle stagne. Et que en repoussant l'âge de départ à la retraite, vous allez créer les conditions d'une paupérisation des retraités. Et c'est précisément ce qui s'est passé en Suède, où les retraites ont baissé pour 70% des hommes et 90% des femmes. Pourquoi ? Parce que quand vous repoussez l'âge de départ à l'âge légal, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas suivre. Et il y a beaucoup de gens qui font des métiers difficiles et qui sont contraints de partir plus tôt et de partir avec une décote. Et c'est d'autant plus vrai en France qu'il y avait 6% des Français qui partaient avec une décote en 2014. Il y en a 13% aujourd'hui et il y en aura beaucoup plus. Et au fond, c'est ça l'objectif de cette réforme, c'est d'aller faire des économies sur les pensions. Juste, je me permets d'ajouter un élément. Vous vous souvenez qu'il y a deux, trois ans, grand maximum, en 2019, Emmanuel Macron disait partout, il a fait une conférence de presse avec vos confrères de France Télévisions, et il disait, je ne repousserai pas l'âge de départ à la retraite. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est injuste. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des métiers
difficiles. Là, il y a des nécessités économiques et financières.
Mais enfin,
c'est ce qu'il a dit en Conseil des ministres.
Oui, d'accord.
On n'a pas le choix.
2017-2022, je crois que M. Djebari était au gouvernement. C'est 600 milliards d'euros de dettes qui ont été faites, dont seulement un tiers, d'après la Cour des comptes, sont imputables à la crise sanitaire. Donc les gens se demandent, mais où passe notre argent ? On paye de plus en plus d'impôts, on paye de plus en plus de taxes, et de l'autre,
les services publics se vendent.
Pas vraiment, non.
Didier Giraud.
Le Mozart de la finance, c'est plus sûr de la classe.
J'aimerais avoir votre grille de lecture.
Pardon, vous avez dit le Mozart de la finance, je pense.
C'est plutôt le cancre du fond de la classe. D'accord. Parce que nous avons vu tous ces gens-là comme des cadors, comme des génies. Il se trouve qu'on est en train de devenir aujourd'hui un pays du tiers-monde, quoi. Aller voir les hôpitaux, aller voir la justice, aller dans les commissariats. La France, qui était une grande puissance, qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'OCDE, c'est-à-dire des pays développés, en fait, voit son économie pose... tièrement dit. Donc les gens se disent, mais où passe notre pognon ?
Ça pose vraiment une question, Jordan Bardella. Moi, je vous observe depuis pas mal de temps et je me demande vraiment si le FN veut gouverner, si vous voulez gouverner. Le Rassemblement National. Si vous préférez gouverner ou si vous aimez finalement jouir du désordre. Parce que là, vous avez une droite qui est objectivement hyper fracturée. Vous avez des gens qui sont proches de vos idées. Les Ciotti, les Retailleau...
Qui, paradoxalement, ont sauvé le gouvernement.
Exactement. Et on pourrait penser que Jordan Bardella pourrait être un Premier ministre de consensus dans une plateforme à droite, de la droite nationale. Et la question que je vous pose, c'est celle-là. C'est est-ce que vous voulez vraiment un jour gouverner ? Est-ce qu'un jour, Jordan Bardella, Premier ministre, c'est possible ou pas ?
Non seulement nous voulons gouverner, mais non seulement je pense que nous allons gouverner. Et je pense que les gens qui nous écoutent ce matin, et beaucoup d'observateurs d'ailleurs, savent que la question qui nous est posée, en fait, n'est pas est-ce qu'un jour on va arriver au pouvoir, mais quand ? Parce que je pense qu'on représente une alternative pour énormément
avec
de Français.
Avec Marine Le Pen, c'est pas sûr.
Et pourquoi Marine Le Pen a dit qu'elle voudrait pas aller à Matignon s'il y avait une cohabitation ?
Parce que Marine Le Pen s'est battue toute sa vie.
Elle veut pas gouverner.
Pour un poste un peu plus important que Matignon, à savoir la présidence de la République française, qu'elle a été candidate 3 fois à l'élection présidentielle, qu'elle le sera peut-être une 4e fois en 2027, et que d'année d'élection en élection, nous augmentons notre nombre de voix.
Et je vais vous dire, moi, je ne Marine Le Pen.
Mais on verra. Je veux dire,
Bah, vous seriez candidat.
On peut faire de la politique fiction, mais en tout cas, si
Vous
demain
vous allez arriver au pouvoir, donc c'est pas la
demain. S'il y a une élection législative anticipée, nous serons prêts et nous partirons ces élections législatives anticipées pour avoir la majorité des sièges.
Mais ça sera pas Marine
Le Pen.
Je
peux vous dire
Matignon.
Que moi, je me réjouis pas de voir mon pays sombrer et de voir de plus en plus de Français.
Non, attendez, Jean-Dan Bardella, vous venez de dire que nous allons arriver au pouvoir, c'est une question de temps. Vous dites que s'il y a une dissolution, il y a des fortes chances que la Rassemblement national ait une majorité absolue. Donc la question est de savoir qui viendrait à Matignon. Donc Marine Le Pen dit, moi j'y vais pas parce que je vise Élysée. Est-ce que vous visez Matignon?
Enfin, vous êtes président du mouvement. Mais écoutez, on se posera la question. Je serai là où je devrais être. On se posera la question. Je veux dire, je pense que c'est pas ça qui intéresse
général,
les
c'est
gens.
Le président du mouvement.
Je pense que c'est en général.
Chirac,
oui, je
pense devient que, premier ministre mais en 86.
Juste comprenez que
Jospin qui était à la tête du PS est devenu premier ministre. Jean-Alain Bardet, vous vous préparez là.
Je ne me bats pas pour moi.
Oui, mais
je me je, non mais d'accord mais vous allez
mettre la langue de bois
mais pour la France mais je me bats pour mes idées et je me bats pour mes concitoyens et je pense qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui et c'est pas d'insister parce que je vous répondrai pas il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui voient le Rassemblement national comme une alternative sur un certain nombre de sujets et je pense que beaucoup se disent si on nous avait écouté très tôt on n'en serait pas là. Regardez un point extrêmement concret, la question de l'énergie. Aujourd'hui, il y a des artisans boulangers, on n'en parle plus, qui continuent à fermer le rideau parce que la facture a été multipliée par 7 ou 8. Depuis maintenant un an et demi, on demande à ce qu'on revienne sur ce marché européen de l'énergie.
Là, vous êtes en train de faire diversion, là. Bien joué.
Bah non, j'essaie de parler.
Je vous interroge sur vous. Non mais vous parlez d'inflation.
Oui, mais on s'en fout. Je vous parle des problèmes concrets des gens. Et je vous dis juste que si on nous avait écouté il y a un an et demi, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal, qui ont retrouvé la maîtrise de leur prix énergétique, on paierait pas une électricité qui ne correspond pas à notre coût de production parce qu'on a effondré la filière nucléaire et que on a organisé le sabordage d'EDF. Regardez par exemple sur les
tout l'intérêt d'arriver à Matignon pour remettre tout ça en cause.
Mais si vous voulez vraiment gouverner, voilà. Pourquoi vous n'allez pas chercher Ciotti, Wauquiez, Retailleau qui ont objectivement failli dans l'organisation de la droite, le parti est fracturé. Il y a des gens qui sont proches de vos idées. Si vous voulez gouverner, pourquoi vous n'avez pas cherché ces gens-là ?
Moi, j'appelle tous les Français d'où qu'ils viennent. Et je sais qu'il y a beaucoup de patriotes sincères à LR à venir nous rejoindre et à travailler avec nous. Et effectivement, Éric Ciotti, et d'ailleurs c'est très contradictoire, c'est que pendant de nombreux mois, il a même dit qu'il voterait Zemmour en cas de présence d'Éric Zemmour au second tour de l'élection présidentielle. A été perçu et présenté avec une ligne politique qui était plus proche de celle du Rassemblement national que celle d'Emmanuel Macron. Mais c'est très contradictoire de le voir aujourd'hui être celui, quasiment le seul, qui dans son mouvement politique avec ses députés à l'Assemblée nationale vient sauver le gouvernement en refusant de voter la motion de censure. La vérité, c'est que chez LR aujourd'hui, il y a des gens qui sont proches du Rassemblement national, idéologiquement, dans les convictions qu'ils défendent, et d'autres qui sont proches d'Emmanuel Macron. Donc LR est devenu une équation impossible, et moi j'aimerais tendre la main aujourd'hui aux patriotes sincères de LR en leur disant, mais venez avec nous, si vous aimez la France, si vous aimez la nation française, si vous avez envie de redonner le pouvoir au peuple français, venez vous battre avec nous, nous allons arriver au pouvoir. Je pense qu'on ne peut pas en dire du parti LR.
Voilà, on va arriver au pouvoir. Vous y croyez, franchement, à des élections législatives anticipées ?
Emmanuel Macron a dit qu'il n'y aura pas de législatives anticipées, mais ce n'est pas
il
parce qu'Emmanuel
Macron...
Il n'y
aura pas de réforme de retraite.
Oui, bon, il dit non, tout le contraire de tout.
Il a dit pas
mais,
carte
mais, de oui, il y a quelques mois, il disait le contraire. Mais juste, je veux dire une chose, ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron dit qu'il n'y aura pas de législatives anticipées qu'il ne sera pas contraint d'organiser des élections législatives anticipées, parce que je pense qu'on ne peut pas gouverner ad vitam aeternam contre le peuple français, contre ce que veulent une majorité de Français dans le pays, et qu'à un moment donné, quand vous arrivez à un point de non-retour dans la défiance qui
on
peut
y
subsister
est,
entre les responsables politiques et le peuple, c'est-à-dire, et je pense que Michel Onfray en donne une définition parfaite, ceux sur qui s'exerce le pouvoir, eh bien vous êtes contraint d'en revenir aux urnes, soit par un référendum, soit par des législatives anticipées. Et moi je veux dire aux gens, on pourrait y arriver. Et moi je veux dire aux gens qui nous écoutent ce matin, n'ayez pas peur, il n'y a aucune fatalité dans ce que vous vivez, il n'y a aucune fatalité dans la réforme des retraites, il n'y a aucune fatalité dans la crise de l'inflation. Je veux dire, il vous reste entre les mains une arme, et peut-être l'arme la plus puissante, ça s'appelle le bulletin de vote.
Ouais, mais pour ça, il faut qu'il y ait des élections.
Il y a des élections européennes dans un an. Il y a des élections présidentielles et législatives dans 4 ans. Je veux juste dire aux gens, ne vous résignez pas, ne vous démobilisez
d'accord.
pas.
Donc,
et on a besoin que vous nous aidiez à vous défendre et à vous aider.
Y a-t-il un problème avec le maintien de l'ordre en France ? Y a-t-il des violences policières en ce moment, le soir, notamment à Paris ?
Non, je ne crois pas qu'il y ait de violences policières. Et je suis toujours gêné avec la généralisation qu'on peut faire. Il peut y avoir individuellement des policiers qui font mal leur travail. Ça peut exister. Mais je refuse qu'on prenne un exemple
sur une vidéo, sur un réseau social, pour dire que l'intégralité des forces de l'ordre et des policiers ne savent pas faire du maintien de l'ordre en France. Et pour une raison très simple, c'est que les policiers sont aussi les premières victimes de cette réforme des retraites. Et c'est ce qu'une grande partie de la gauche ne comprend pas, c'est que quand ils s'en prennent aux policiers, quand ils s'en prennent aux représentants de l'ordre en France, ils s'en prennent pas non seulement à la République, mais ils s'en prennent aussi à des mères et à des pères de famille qui sont les premières victimes de cette réforme des retraites et qui vont devoir travailler plus longtemps.
Didier Giraud.
Moi, j'aimerais votre analyse parce que j'ai le sentiment que cette réforme des retraites, elle cristallise des colères qui sont tout autres, quoi.
Exactement.
Elle sert de détonateur et on vous a peu écouté sur vos solutions pour résoudre l'inflation, pour endiguer là.
Quand j'en parle, on dit que je fais diversion. Alors.
Ouais, mais il n'avait pas compris, Olivier, que vous vouliez pas répondre sur le Premier ministre. Comment le Rassemblement national, on va dire, on va continuer la politique fiction. Demain, il y a des élections anticipées. Vous devenez Premier ministre. Comment on retravaille sur cette inflation? Comment on arrive à rééquilibrer un peu la France des villes et la France des champs? Enfin, c'est quand même des sujets où on n'écoute pas l'opposition aujourd'hui, quoi.
L'inflation, me semble-t-il, a deux causes. D'abord, la hausse des coûts de production qui est liée à l'explosion des prix de l'énergie. Et il y a beaucoup de TPE-PME qui ont été contraints d'augmenter leurs prix parce que le prix de l'énergie est insoutenable. Premièrement, il faut réformer le marché européen de l'énergie qui fait qu'aujourd'hui, en France, le prix de l'électricité, alors qu'il y avait un consensus pour dire que le nucléaire était un atout français de De Gaulle à Nicolas Sarkozy, est adossé sur les prix du gaz. Donc quand les prix du gaz augmentent, les prix de l'électricité en France augmentent de manière totalement irrationnelle parce que 90% de notre énergie ne vient pas d'énergie liée au gaz. L'Espagne et le Portugal ont obtenu cette dérogation de la Commission européenne et ils ont aujourd'hui une énergie qui est 15 à 20% moins chère qu'elle ne l'était au printemps dernier. Emmanuel Macron en avait parlé, il ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce que ça va déplaire à l'Allemagne.
En relance la filière nucléaire, vous avez d'ailleurs voté le texte du
gouvernement.
Oui, enfin, à l'Assemblée nationale cette semaine.
Enfin, Madame Borne qui vient nous dire qu'il faut relancer le nucléaire après avoir fait fermer Fessenheim quand elle était ministre de la transition énergétique. Là aussi, si vous voyez, il y a un truc un peu cynique et malsain chez ces gens-là qui est incompréhensible. Deuxièmement, il y a des grandes boîtes qui font aujourd'hui des super profits. Quand vous achetez un bidon de lessive qui vous coûte 12 euros, Ariel, c'est une étude qui avait été faite et qui montrait que les produits Procter et Gamble, et notamment Ariel, quand vous avez 12 euros votre bidon de lessive, vous en avez 3 qui partent immédiatement sur les super profits. Donc je pense qu'il faut taxer aujourd'hui les super profits parce qu'il y a des grandes boîtes, il y a des grands groupes. L'agroalimentaire est passé d'un taux de marge de 30 à 45% en un an qui sont faits contre la stratégie d'investissement de l'entreprise et qui sont des super profits en temps de guerre et qui sont faits de manière indue. Maintenant, de manière très concrète, il faut baisser la TVA. Et c'est la première mesure que nous prendrons si nous arrivons à la tête de l'État. Arrêtez d'envoyer des chèques qui sont généralement mal ciblés. On baisse la TVA sur les carburants et sur l'énergie de 20% à 5,5%. Quand vous avez un carburant à 2 euros à la pompe et que vous avez 60% de taxes, l'État peut agir immédiatement pour soulager la pression fiscale. Deuxièmement, nous supprimons, comme l'a fait l'Espagne, la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité. Le riz, les pâtes, les produits hygiéniques, les couches pour les enfants. On supprime totalement la TVA sur ces produits. Donne immédiatement du pouvoir d'achat aux Français.
J'ai pas écouté une seule opposition qui s'élève sur le panier mis en place par les boîtes là, parce que moi ça me gonfle, mais vous imaginez pas le président de la République, il inaugure le salon de l'agriculture le samedi en disant achetez français, soutenez les agriculteurs, soutenez nos filières. 10 jours après, le ministre de l'économie, il annonce le panier avec 100 produits lait, et c'est que du fabriqué en France. Il n'y a pas un seul produit français dans ces marques-là. C'est toutes des marques distributeurs, donc c'est transformé en France, mais grosso modo, tout est importé pour transformer en France. Hein. Pour réduire les marges, il n'y a pas 50 solutions. C'est que des marques distributeurs dans les paniers qu'a mis la grande distribution. J'ai écouté personne moufter. En plus, on pousse le vice à mettre un petit logo bleu-blanc-rouge, quoi.
Écoutez, j'ai passé 48 heures au sein de l'agriculture. Il y a une autre réalité, c'est que l'agriculture française.
Vous avez le record, 48 heures.
48 heures.
Et il est prêt, pardon.
Et notre souveraineté alimentaire. Non, mais attendez, il y a un truc très sérieux. C'est que l'agriculture française, qui a été peut-être l'une des grandes puissances, l'un des grands piliers économiques de la France au siècle dernier, ne sera jamais compétitive tant qu'on continuera de négocier des accords de libre-échange avec des pays qui ne respectent aucune de nos normes, le Brésil, le Canada, la Nouvelle-Zélande, et qui font venir dans les assiettes des citoyens, des familles françaises, des produits qui ne respectent aucune des normes qu'on impose aujourd'hui aux agriculteurs français. Donc je pense, et nous défendons la grande idée de l'exception agriculturelle française, c'est-à-dire le patriotisme économique, on sort l'agriculture des accords de libre-échange. On peut négocier de manière bilatérale des accords de libre-échange quand on y gagne, mais quand vous mettez en concurrence la filière volaille française et les éleveurs, qui est aujourd'hui le parent pauvre de l'agriculture française, avec du poulet brésilien qui est piqué aux hormones et qui ne respecte aucune des normes sanitaires, sociales, environnementales qui sont imposées aux agriculteurs français, on ne sera jamais compétitif. Et moi, si vous voyez, ce que je ne comprends pas, c'est que toutes les grandes puissances qui réussissent dans la mondialisation, elles protègent leur économie. Les marchés intérieurs chinois sont infranchissables. Les marchés américains intérieurs sont pleins de normes. Il n'y a que les nôtres qui sont ouverts à la terre entière sans aucune
problème. On ne ressemble pas à la Chine. Par contre, on ressemble un peu au Royaume-Uni, on ressemble un peu à l'Italie. L'Italie, c'est Meloni, donc c'est plutôt quelqu'un qui est proche de vos idées. Elle est devenue... En tout cas, elle est aujourd'hui très clairement pro-européenne. Enfin, elle s'est complètement inscrite dans la logique européenne. On a vu Royaume-Uni, Liz Truss, bon, qui n'est pas tout à fait, qui est à droite, a mis par son indigence dans sa politique économique son pays en danger. Le système financier a failli craquer là-bas. Et là, dans votre programme primo-ministériel, vous nous annoncez évidemment beaucoup de, enfin, beaucoup moins de recettes, baisse de TVA, etc. Mais le modèle social, j'ai toujours pas compris comment vous alliez le financer. Et donc, est-ce qu'il n'est pas temps quand même de proposer quelque chose d'un peu plus sérieux et d'un peu plus nourri, si vous voulez vraiment accéder à...
Les leçons de sérieux de gens qui, en 5 ans, ont fait 600 milliards d'euros de dettes, franchement, faut peut-être, je vais peut-être un peu vous appeler à l'humilité, même si je vous aime bien personnellement, mais je vais peut-être franchement vous appeler un peu à l'humilité là-dessus. Oui. Deuxièmement, le modèle social français aujourd'hui...
On a l'impression
devenu...
que la rassemblement nationale est devenue à partie de la dépense.
Non, non, mais attendez, je vous donne une des économies, une économie de bon sens. Le modèle social français aujourd'hui, c'est devenu un guichet social pour la terre entière. Mmh. Voilà, vous arrivez en France, le logement, les allocations familiales, les soins gratuits avec l'aide médicale d'État, c'est avec nous, tout ça, c'est terminé. Et je pense que les aides sociales et les allocations familiales doivent être réservées aux familles françaises. Les aides sociales qui sont versées aux étrangers chaque année dans notre pays, c'est entre 15 et 20 milliards d'euros. Ce sont des chiffres officiels qui sont donnés par l'OCDE et qui montrent que la France a peut-être l'un des systèmes les plus généreux au monde. Et il y a beaucoup de gens dans notre pays qui ne comprennent pas qu'alors qu'on a un retraité sur trois qui renonce à se soigner parce que le reste à charge est devenu trop important, que de l'autre, on offre les soins gratuits sans aucune condition, avec toute la palette de soins gratuits à des gens qui viennent de l'étranger sans jamais avoir travaillé ni cotisé. On est le seul pays à faire bénéficier
de cette générosité. J'ai pas été 5 ans au gouvernement, mais ça m'apparaît pas non plus très sérieux. Vous pouvez, on a 3000 milliards d'euros de dettes. Donc quand vous m'annoncez moins de TVA un peu partout et une réduction des aides sociales, notamment pour les étrangers, j'ai pas l'impression que c'est un programme gouvernemental qui va me permettre de réduire cette dette. On a 164 milliards de déficit commercial. J'ai pas l'impression que votre programme va me permettre de résoudre ce problème. Vous parliez des États-Unis et de la
protection. Mais sur quel point,
vous parliez des États-Unis et de la Chine. Vous disiez que justement ce sont des économies qui réussissent parce qu'elles sont très protectionnistes. Je suis d'accord avec vous, mais elles sont aussi très innovantes. En France, on a un problème sur l'innovation.
Exactement.
Je vous ai vu intervenir sur ChatGPT il n'y a pas très longtemps. Vous avez eu bien raison de le faire parce que vous êtes un des seuls avec David Lisnard qui le fait. Mais quand même, justement, on n'est pas nous des créateurs de ChatGPT en France. Donc il y a un vrai problème qui n'est pas celui simplement du pouvoir d'achat et qui n'est pas simplement celui de l'énergie. On a un vrai problème de compétitivité au niveau international. Et vraiment, votre programme, là, dans ce que vous me dites, malheureusement, alors peut-être que vous ne nous avez pas tout révélé, mais je n'ai pas l'impression que ça vienne solutionner et la dette, et le déficit commercial, et le manque et le déclin au niveau de l'innovation. Donc vraiment, j'aimerais vous entendre sur cette point-là.
Je suis intervenu sur ChatGPT parce que je pense que l'intelligence artificielle va être peut-être le plus gros bouleversement à la fois économique, social, technologique, sociétal, qui va toucher tous les pays développés au XXIe siècle. Et le vrai sujet aujourd'hui, et personne n'en parle dans la classe politique, c'est que la France est complètement, et l'Europe entière d'ailleurs, sont complètement dépassées par l'émergence des biotech, des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle en général. Aujourd'hui,
qu'on peut expliquer
pourquoi. quand la Chine crée, que les États-Unis créent une technologie, la Chine la régule, la copie, et l'Europe se charge uniquement d'en faire la régulation par les débats qu'on a sur la protection des données au Parlement européen. Et je pense que si nous continuons comme cela, à savoir à maltraiter nos savants, à sous-payer nos chercheurs, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un jeune ingénieur, polytechnicien, diplômé, etc., vous partez à l'étranger. Pourquoi? Bah parce qu'une boîte comme Google ou comme OpenAI va vous donner des fortunes pour vous installer, pour vous développer, pour créer vos projets, alors que la France n'offre quasiment rien aux chercheurs qui devrait avoir les moyens de créer et d'innover. Et surtout, il faut réformer l'école. Le vrai sujet, c'est l'école. Et je pense que si on arrive à la tête de l'État, c'est un quinquennat pour réformer l'école. Parce que l'école aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous arrivez en sixième, vous avez des difficultés d'orthographe, de grammaire, etc., qui sont considérables. Donc il faut recentrer l'école sur les savoirs fondamentaux. Et moi, je pense qu'il faut initier les plus jeunes et les jeunes générations à l'intelligence artificielle.
Mais là, M. Bardella, vous repartez sur des projets de temps très long. ChatGPT, c'est maintenant. Et pourquoi c'est intéressant? C'est que jusqu'à présent, le numérique, ça a plutôt endommagé les jobs peu qualifiés. Là, ChatGPT, enfin la promesse d'OpenAI, c'est que tous les métiers qualifiés, de journalistes, tous les métiers de cadre,
ça touche les métiers,
ça touchera
qualifiés.
Tous ces métiers.
Exactement.
Tous ces métiers peuvent disparaître. Donc du coup, le sujet, il est maintenant. Donc c'est quoi votre proposition concrète sur ChatGPT? On fait quoi? On l'interdit en France? On régule à l'échelle européenne. C'est quoi votre solution concrète?
Non, je crois absolument pas qu'il faille interdire. Mais et d'ailleurs ça n'est pas possible, parce que les grands maîtres du 21e siècle sont ceux qui ont entre les mains la data et la donnée. Or il se trouve que ceux qui ont davantage entre les mains aujourd'hui cet or gris du 21e siècle, c'est davantage les GAFAM que évidemment que les États. Mais il y a un vrai sujet, c'est un sujet de souveraineté, et je pense que la France devrait dans l'immédiat augmenter de manière significative les investissements qu'elle fait dans les nouvelles technologies et surtout augmenter son budget public de R&D. Regardez, je crois que le budget R&D de la France, ça doit être de mémoire aux alentours de 2-2,5% du PIB. C'est deux fois moins qu'une nation comme Israël, qui est présentée comme la start-up nation, et c'est beaucoup moins que des pays comme l'Allemagne ou que des pays comme les États-Unis qui investissent dans les nouvelles technologies. Donc si on ne veut pas devenir le Zimbabwe de 2080, c'est maintenant qu'on configure les grands investissements qui seront faits pour les nouvelles technologies. Et pour ça, il faut évidemment réformer l'école et il faut arrêter de maltraiter les savants.
Une dernière question avec une réponse rapide. Le roi Charles III doit arriver en France. On connaît le contexte.
Pas déçu du voyage.
Voilà, on connaît le contexte du moment. Sandrine Rousseau, ce matin sur RMC BFM TV face à Pauline de Malherbe, disait qu'il valait mieux reporter puis tout le faste et le dîner à Versailles et autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut dire à appeler Buckingham en disant écoutons, on renonce, non, on n'est pas prêt ou pas?
Moi, je porte pas Sandrine Rousseau dans mon cœur. Je pense que vous le savez, mais c'est vrai qu'on a le sentiment.
Je pense en plus.
Et je pense que les gens se disent, mais est-ce que le président de la République qu'on a élu, qu'on s'est choisi, qui est là pour nous protéger, pour donner un cap à la nation, il va être là un peu pour nous? Parce que les voyages en Afrique, c'est bien, ça fait de la relation internationale, on défend la zone d'influence de la France, pas de problème. Les voyages en Chine, c'est bien, c'est très bien, faut négocier des partenariats d'avenir, très bien. Recevoir le roi Charles, c'est bien, c'est
on
très
maintient,
bien.
On maintient.
Mais quand, si vous voulez, il y a que ça, bah, les gens se disent, mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce que ce type qu'on s'est choisi, qu'on a élu, il est là pour nous?
Est-ce qu'il
est là pour mon pouvoir d'achat?
Est-ce qu'on doit annuler Versailles?
Je sais pas s'il faut l'annuler, je pense que c'est trop tard, et je pense que se poser la question à 4 jours de la réception, c'est un peu tard.
Il y a des élus RN qui doivent rencontrer le roi Charles.
Mais juste.
Lors la Valette, notamment.
En prévision de notre accession à la tête de l'État, on commence nous aussi à faire de la diplomatie des relations internationales. Mais juste comprenez ce que je veux vous dire. Je pense que ce gouvernement, il manque profondément d'humanité. Et il manque profondément d'empathie pour les gens et pour les Français. Et que le président de la République défende les intérêts de la France à l'international, c'est très bien, c'est nécessaire. C'est son rôle.
Mais ça vous choque quand on ne fait que ça? Ça vous choquera Charles III qui descendra les Champs-Élysées et le dîner à Versailles? Ça vous choque?
Ce qui me choque, c'est de le voir se désintéresser des Français et de ce que vivent les gens au quotidien. Et je pense que ce que je dis là est partagé par beaucoup de gens qui ne comprennent pas que le président ne s'occupe que des autres et jamais d'eux, alors que les gens, ils ont des problèmes là, tout de suite.
Merci.
Là, c'est l'angoisse d'aller ouvrir la facture de l'enveloppe avec la facture EDF quand ils vont à la boîte aux lettres.
Merci Jordan Bardella.
Merci à vous.
Du Rassemblement National.
Bonne journée.